Europe Midi, Christophe Lamarre.
Bonjour, bienvenue à tous, il est midi et 30 minutes pile. Une deuxième médaille pour la France, Amandine Buchard décroche l'argent en judo dans la catégorie des moins de 52 kilos. Les pompiers sur le qui-vive dans l'Aude, l'incendie qui a déjà détruit 850 hectares continue de progresser. Le Sénat adopte le pass sanitaire mais en modifie certaines applications. Les mineurs en sont exemptés, il ne sera pas obligatoire pour s'asseoir à la terrasse d'un café ou d'un restaurant. La contestation enfle, les manifestants contre le pass sont de plus en plus nombreux mais Emmanuel Macron assume. Le président en déplacement en Polynésie appelle à l'unité et demande aux Français de se vacciner. La ruée sur les tests antigéniques et PCR, les laboratoires, les pharmacies débordées par la demande et dans certains endroits, l'affluence a été multipliée par 3. Le succès de la randonnée, faut-il y voir les effets des confinements successifs? Les Français en tout cas veulent prendre l'air, les équipementiers et les guides se frottent les mains. Invité d'Europe Midi, l'économiste et maître de conférence Dany Lang. Qui va payer la dette Covid? Elle dépasse les 400 milliards d'euros. Le gouvernement promet qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts. Certains de la cantonner, de l'annuler. D'autres, au contraire, affirment qu'il faudra la rembourser, cette dette. Et ce thème pourrait bien s'inviter dans la prochaine campagne présidentielle. On essaiera d'y voir plus clair avec lui.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Bon, l'actualité ne nous donne pas forcément, pas vraiment l'occasion de sourire en ce moment. Eh bien, justement, on va s'offrir un bon bol d'air. La France s'offre une deuxième médaille aux Jeux Olympiques, toujours en judo. Amandine Buchard décroche l'argent dans la catégorie des moins de 52 kilos, Marie Guida.
Oui, c'est l'aboutissement d'un parcours chaotique. Elle qui a changé de catégorie de poids en 2016, traumatisée par les régimes pour faire moins de 48 kilos, Amandine Buchard décide alors de passer dans la catégorie supérieure en moins de 52. Le temps de s'adapter, elle manque les Jeux de Rio 2016. Après ça, ce sont des mois d'incertitude et de dépression. Aujourd'hui, c'est donc une renaissance. Elle qui est numéro 2 mondiale, championne d'Europe en titre. Elle ajoute une belle médaille d'argent à son palmarès. Et autre chance de médaille aujourd'hui, c'est du côté de l'escrime. Romain Canon est actuellement sur la piste pour disputer sa demi-finale. Pour l'instant, 5 touches partout contre l'Ukrainien Rezlin. Un beau parcours pour celui qui participe à ses premiers Jeux Olympiques et qu'on n'attendait pas à ce niveau.
Et l'autre événement de la journée, Marie, c'est l'entrée en lice de l'équipe de France de basket. Et c'est pas face à n'importe qui, c'est face aux Américains.
Oui, les Américains, triple tenant du titre, arrivent avec leur star NBA. Mais pour le pivot de l'équipe de France, Rudy Gobert, oui, c'est une belle affiche. Mais ce n'est que le début de la compétition. Une défaite ne serait pas rédhibitoire.
Ouais, c'est une équipe super talentueuse. Ils ont des joueurs d'exception. Ils ont un coach d'exception. On sait que c'est les grands favoris de cette compétition. Bien sûr, on va essayer de gagner ce match, mais c'est surtout une très bonne opportunité pour nous pour lancer notre compétition. Et on sait que la préparation a été courte et chaque match va vraiment nous servir pour élever notre niveau et pour progresser au fil de la compétition.
Et allez, pour se rassurer et se dire qu'une victoire est possible, on peut se rappeler qu'au Mondial 2019, la France avait battu les États-Unis en quart de finale. Une défaite d'ailleurs que les Américains n'ont pas oubliée.
Oui, et c'est peut-être bien ça le problème. Ils ont la mémoire longue, les Américains. Marie Guida, du service des sports d'Europe 1. Dans l'Aude, l'incendie qui s'est déclaré hier après-midi n'est toujours pas maîtrisé. 700 policiers sont mobilisés pour empêcher les flammes de progresser. Océane Théard, le feu a déjà parcouru plusieurs centaines d'hectares.
Oui, 850 hectares de garrigues et de pinèdes sont partis en fumée en moins de 24 heures. Près de 800 pompiers ont lutté toute la nuit contre les flammes. Ils sont toujours mobilisés en ce moment même. Alors pour l'instant, il n'y a pas de victimes. Une maison a été endommagée. Et par mesure de précaution, 120 personnes de la petite commune de Foncouverte, à une trentaine de kilomètres de Carcassonne, ont été évacuées. Des habitants qui sont accueillis dans une salle polyvalente. L'objectif de ces centaines de pompiers, c'est déjà d'éviter que le feu ne s'étende trop vite. Techniquement, il s'agit de contenir le foyer en noyant les flammes sur une zone longue de 25 km bordant l'incendie. Une mission difficile, notamment à cause des conditions météo, comme l'explique le lieutenant Philippe Miramont, présent sur place.
Ces différentes communes sont soumises à une sécheresse assez importante. À cela, il faut rajouter un vent assez fort de 50 km/h sur zone pour la journée et les journées à venir.
Autre difficulté, la localisation de l'incendie en plein massif avec peu de routes, donc peu d'accès pour les pompiers. Et avec ce vent qui souffle toujours et fortement sur le département de l'Aude, les pompiers craignent des reprises de feu.
Océane Théard. Après l'Assemblée, c'est au tour du Sénat d'adopter le projet de loi sur le pass sanitaire, mais le texte a été assez largement modifié. Les mineurs sont désormais exclus du dispositif. Les sénateurs ont par ailleurs refusé qu'il s'applique dans les centres commerciaux ou sur les terrasses des cafés. Ils vont maintenant devoir s'accorder avec les députés pour une éventuelle adoption définitive ce soir. Mais pour Damien Abad, les modifications apportées vont dans le bon sens. Le président du groupe LR à l'Assemblée était l'invité de la matinale d'Europe 1 ce matin.
Oui, je pense que les sénateurs de droite ont fait un vrai travail de fond approfondi que je veux saluer. Et moi, ce que je souhaite, c'est que ce matin, en commission mixte paritaire, un accord soit trouvé sur la base du texte du Sénat. Parce que ça a du sens et de la cohérence que de ne pas imposer le pass sanitaire dans les activités extérieures de plein air. Ça a du sens et de la cohérence de laisser le temps aux professionnels de s'organiser, notamment les salariés du secteur touristique et de la restauration. Et puis, ça a aussi du sens, ça a aussi de la cohérence de supprimer les sanctions pénales, parce qu'il est absolument scandaleux d'imposer des sanctions pénales sur des restaurateurs ou des professionnels du tourisme, alors même que ce n'est pas leur job que de faire des contrôles d'identité.
Le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée, Damien Abad, il était l'invité de la matinale d'Europe 1 ce matin. Cette inflexion, si elle se confirme, ne devrait pas calmer la colère des opposants au pass sanitaire. Les défilés et manifestations ont rassemblé plusieurs milliers, peut-être des centaines de milliers de personnes dans toute la France hier. L'exécutif reste pour l'instant de marbre et affiche sa détermination. « J'assume », dit le chef de l'État, tout en appelant à l'unité et à se faire vacciner. Emmanuel Macron, qui est en Polynésie, voyage de 4 jours pour le président. C'était une promesse du chef de l'État, mais ce déplacement avait dû être repoussé, épidémie oblige. Emmanuel Macron espérait peut-être mettre le Covid entre parenthèses. Ça n'a pas été du tout le cas, Claudia Bertram, vous êtes notre envoyée spéciale à Tahiti.
Oui, puisque dès son arrivée, Emmanuel Macron est accueilli avec 2 tests, PCR et antigéniques, à la place du traditionnel collier de fleurs, qu'on lui a bien évidemment ensuite passé autour du cou à sa descente de l'avion. Une cérémonie sous forme d'orero déclamée par de jeunes Polynésiens. Un art traditionnel qui consiste à souhaiter la bienvenue avec des mots chantés, au son d'un vivo, une flûte nasale et d'un pahu, une percussion. L'Élysée avait prévenu accueil contrôlé en raison de la crise sanitaire.
Et le président s'est d'ailleurs rendu tout de suite au centre hospitalier de Papeete.
L'heure n'est pas encore à la carte postale depuis les îles alors que la situation sanitaire se dégrade avec le variant Delta. Les contaminations augmentent ici aussi. Et face aux soignants du centre hospitalier, le premier message d'Emmanuel Macron en Polynésie, c'est la vaccination.
Lorsque la science donne des armes, il faut les utiliser. Et donc je veux ici lancer un message très fort pour appeler chacune et chacun à se faire vacciner, parce qu'on le voit partout dans les chiffres. Et sous toutes les latitudes, quand on est vacciné, on est protégé.
Ici, 35% de la population a reçu une première dose. Un message donc aux Polynésiens, mais plus globalement à l'ensemble de la population française. Interrogé par les journalistes, Emmanuel Macron réagit aussi aux manifestations qui se sont tenues ce week-end contre le pass sanitaire.
Aucune liberté n'existe sans devoir. Que vaut votre liberté si vous me dites « je ne veux pas me faire vacciner » Si demain vous contaminez votre père, votre mère ou moi-même, je suis victime de votre liberté. Ça n'est pas ça la liberté. Ça s'appelle l'irresponsabilité. Ça s'appelle l'égoïsme.
Le président qui a su respecter les personnes qui manifestent tout en décriant ceux qui, je cite, sont dans la mobilisation irrationnelle, cynique et manipulatrice.
Claudia Bertram, envoyée spéciale d'Europe 1 en Polynésie. Et j'ajoute que l'Allemagne réfléchit à son tour à la possibilité de restreindre les libertés pour les personnes non vaccinées si l'épidémie devait continuer de progresser, dit la chancelière Angela Merkel. Dans le Calvados, on se met déjà à l'heure des restrictions. On parle d'expérimentation volontaire. Depuis ce matin, il faut montrer patte blanche pour entrer dans un café ou un restaurant. Si on veut s'asseoir à une table à Trouville ou encore Deauville, il faut au préalable sortir son pass sanitaire. Le département affronte lui aussi une forte hausse des cas de contamination. Ceci explique peut-être cela. Les non-vaccinés se ruent sur les tests PCR ou antigéniques. Et dans les pharmacies, c'est une affluence que l'on n'avait plus l'habitude de voir. Caroline Baudry.
C'est négatif.
C'est un sésame que récupère Sophie, 22 ans, au comptoir de la pharmacie. Le résultat du test antigénique délivré par la pharmacienne, indispensable pour aller danser en boîte de nuit.
J'ai une soirée et on me demande un pass sanitaire. En fait, j'ai fait ma deuxième dose il y a 2 jours. Et donc, il faut attendre une semaine pour que le pass soit activé.
Entre 2 prélèvements, Sonia, la pharmacienne, tente de décrocher au téléphone.
Ah oui, il y a des personnes qui demandent à quelle heure on ferme pour venir encore en faire, pour aller au cinéma, pour aller au théâtre, pour prendre l'avion. On a fait beaucoup, énormément. Et j'ai même fait 2 boîtes complètes, donc j'aurai une cinquantaine, dont une quinzaine habituellement.
Julie est la 51e. Elle s'installe en tenue de sport sur une chaise de l'arrière-boutique. Comme le test n'est valable que 48 heures, c'est un nouveau rituel pour cette coach en salle.
En une semaine, j'ai dû faire 3 tests. On est obligé maintenant pour pouvoir coacher. coacher ou même s'entraîner, d'avoir ou un pass sanitaire ou un test antigénique. Je ne suis pas vaccinée et pour le moment, je ne me sens pas du tout de me faire vacciner. Forcément, on profite du système français qui permet de se faire tester gratuitement.
Cette gratuité s'arrêtera à l'automne. Elle attendra d'être au pied du mur pour réfléchir à l'option vaccination.
Un reportage Caroline Baudry. On le verra avec la météo à la fin du journal. Le temps va être un peu perturbé sur une partie de la France aujourd'hui et peut-être même en début de semaine prochaine. Cela ne devrait pas décourager les amateurs de randonnée. La discipline fait de plus en plus d'adeptes et les équipementiers ont de quoi sourire. Les ventes décollent. Maud Descamps.
À la Fédération française de randonnée pédestre, on a le sourire. Depuis un an, les ventes de Topo Guide ont bondi de 40%. Un phénomène qu'observe également Philippe Aurin, directeur des guides vers Michelin, si bien que certains ont dû être réédités en urgence.
Avec le Covid, on a dû revoir complètement nos tirages. Périgord, l'Auvergne, la Franche-Comté, le Lot ont dû être réimprimés.
Autre signe de l'intérêt croissant des Français pour la randonnée, les ventes d'équipements Décathlon observent une hausse de 15% de ses ventes de chaussures de randonnée. Même phénomène aux vieux campeurs, explique son directeur général, Aymeric de Rorté.
Tout ce qui est vente de chaussures, de sacs de couchage, de tentes, sont en forte progression. Le plus spectaculaire, c'est effectivement les cartes IGN. Nous avons fait la plus grosse année que nous ayons jamais faite. Et surtout, on a ce côté retour à l'authenticité, où les gens ont tellement été forcés d'être sur des écrans que tout ce qui fait qu'ils peuvent quitter les écrans, ils le font. Et donc, consulter des cartes papier, ça leur plaît comme jamais.
À l'instar de la randonnée, le kayak, la nage en eau libre ou le vélo sont également en très forte hausse, observent les professionnels.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1. Ces randonneurs vont-ils marcher sous la pluie ? Eh bien, on voit ça tout de suite.
L'été, c'est avec ou sans soleil. Mais la rentrée, c'est surtout l'esprit léger, grâce aux solutions de garde d'enfants de la Compagnie des Familles. Tout de suite, la météo.
Quelques orages dans le nord du pays cet après-midi, Marlène Duret.
Oui Christophe, si on a déjà pu entendre quelques coups de tonnerre par endroit, le temps va devenir de plus en plus instable sur une petite moitié nord du pays, avec des averses parfois orageuses, alors moins d'averses en allant vers le sud-ouest, mais l'humidité restera bloquée sur les Pyrénées et leur piémont, voilà pourquoi le temps sera gris et faiblement pluvieux par endroit. Sur le reste du pays, un ciel changeant, avec tout de même de belles éclaircies sur le Jura, le nord des Alpes, les plages corses, quelques orages isolés sur le relief des Vosges et des Alpes du Sud, et puis on termine avec un léger voile nuageux de la vallée du Rhône au pourtour méditerranéen. Là-bas, le ciel ne sera pas tout bleu, mais ça reste lumineux. Température maximale prévue 22 à 26 degrés en général avec 23 à Paris. Comptez un petit peu moins sur la côte d'Albâtre et la pointe du Cotentin avec par exemple 20 degrés au Havre, 19 à Cherbourg. Un peu plus en Alsace, en Isère et dans le Lyonnais avec 27-28 degrés. Et les températures atteindront encore 29 à 34 de la vallée du Rhône au pourtour méditerranéen avec 34 à Nîmes.
Merci Marlène. Et puis à l'instant, une troisième médaille pour la France. On ne sait pas encore si elle sera d'argent ou d'or. À l'épée, Romain Canon vient de se qualifier pour la finale qui se disputera à 14h15. Et la France donc assurée d'obtenir une troisième médaille. On attend d'en connaître la couleur. Et puis dans quelques instants, bien sûr, qui va payer la facture du Covid ? L'économiste Dany Lang nous donne quelques éléments de réponse. À tout de suite.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Christophe Lamarre.
Bonjour Dany Lang.
Bonjour.
Alors vous êtes économiste, maître de conférences en économie à l'Université Paris 13 et vous êtes par ailleurs membre des économistes atterrés. Si on voulait vous avoir sur Europe 1, c'est pour tenter de comprendre ce qui se passe sur le plan économique et notamment tout ce qui touche à la dette Covid et qui va atteindre à peu près 400 milliards, qui les a peut-être déjà dépassés, 400 milliards d'euros. Qui va payer cette dette, Dany Lang ?
Alors, dans la dette, il faut bien distinguer deux types de dettes. On nous parle souvent de dette de manière indifférenciée. Il y a la dette publique qui représente aujourd'hui plus de 100% du PIB. Et il y a la dette privée qui représente 240% du PIB. La dette publique, c'est la dette de l'État et des collectivités locales. Et la dette privée, ben, c'est la dette des entreprises et des ménages. Quand vous et moi, nous empruntons pour acheter un logement ou pour acheter une voiture, c'est de cela dont on parle. Et une dette privée doit par nature être remboursée. La dette publique, c'est un peu moins problématique, contrairement à ce que disent beaucoup d'éditorialistes dans les médias, parce qu'une dette publique peut toujours être renouvelée à échéance. C'est-à-dire quand elle arrive au bout, la dette publique, l'État peut réemprunter, ce qui n'est pas le cas pour un ménage. Au bout d'un moment, les gens partent à la retraite et donc ne peuvent plus emprunter, ce qui est normal.
L'État a conclu qu'il fallait en mettre fin ou quoi qu'il en coûte. La Cour des comptes elle-même expliquait il y a peu qu'il fallait de toute façon sortir du quoi qu'il en coûte. Est-ce qu'au moment où on se parle, c'est possible, compte tenu de la situation économique de la France ?
Moi, ça me paraît extrêmement compliqué. Et puis, dans le quoi qu'il en coûte, il n'y avait pas que des choses positives. Rappelez-vous, au moment où le quoi qu'il en coûte a été lancé, on s'est retrouvé avec des entreprises qui, au lieu d'être aidées très directement, ont eu des prêts garantis par l'État. Or, un certain nombre d'entre elles ne pourront jamais rembourser ces emprunts pour des raisons évidentes, parce que le Covid les a mis dans des situations extrêmement difficiles. Donc mettre fin au quoi qu'il en coûte, ça veut dire aussi aggraver la situation économique, mettre le pays dans une situation encore plus délicate qu'il ne l'est. Et c'est extrêmement difficile, extrêmement difficile. Moi, je n'aimerais pas être aujourd'hui un responsable politique ou un banquier central, parce que les banques centrales, de par leur politique, elles ont aidé les entreprises et les ménages avec des taux extrêmement bas, ce qui s'est répercuté sur le crédit de tout un chacun. Le problème, c'est que si demain les banques centrales réaugmentent les taux d'intérêt, donc si elles rendent le crédit plus difficile, et si par ailleurs l'État met fin à cette phase de dépenses publiques, eh ben on va se trouver dans une situation encore plus difficile pour tous les ménages et toutes les entreprises qui sont déjà en grande difficulté. Donc c'est ça le problème. Je ne suis pas sûr que les dirigeants français aient compris la situation. Et mettre fin au quoi qu'il en coûte de manière brutale, c'est s'assurer du déclenchement d'une crise.
Mais est-ce que l'économie peut vivre comme ça indéfiniment sous perfusion, Dany Lang?
Alors, la question est une bonne question. Moi, je dirais que c'est pas forcément comme ça qu'il faudrait utiliser la dépense publique. La dépense publique, c'est quelque chose qui est fait pour financer des universités, des hôpitaux, etc. Et donc, on en a bien besoin. On a vu l'état de nos hôpitaux au moment du confinement. Nos universités sont dans un état de délabrement assez avancé. Donc, il faudrait plutôt orienter la dépense publique vers ce genre de secteur et vers la transition écologique. On a une crise climatique majeure. On a besoin de dépenses publiques dans la transition écologique. On a besoin que la dépense publique, aujourd'hui, prenne le relais de la dépense privée, parce que quand la dette privée est à ce niveau-là, ça veut dire que les entreprises et les ménages vont avoir du mal à continuer de faire tourner l'économie un niveau qui lui permet de tenir le coup. Avec une dette privée à 240%, on risque fort qu'à un moment les marchés paniquent et se retournent, et donc on risque fort d'avoir un effondrement boursier dans les mois à venir. Et là, je n'aimerais pas être une banque centrale, parce que les banques centrales ont soutenu massivement l'économie ces derniers mois, ces dernières années. Et on voit bien que ça a débouché sur cette situation de dette. Or, si elle recommence à augmenter les taux d'intérêt, on va étouffer encore plus l'économie. Donc, il n'y a pas tellement d'autres leviers que de jouer sur la commande publique. L'alternative, ce serait éventuellement de pousser à l'exportation. Mais pour exporter, il faut qu'il y ait des gens qui importent. Or, les autres pays sont eux aussi dans des situations délicates.
L'économie tourne globalement au ralenti, Dany Lang, et pourtant les marchés financiers sont au plus haut, que ce soit le S&P 500, que ce soit le CAC 40, quelques pertes mais aussitôt effacées par les gains du lendemain. Est-ce qu'ils sont devenus totalement hors sol ?
Ça fait longtemps que les marchés financiers sont déconnectés du réel. Vous savez,
depuis
le marché
2008.
Financier, c'est un peu un jeu de casino. Le but sur un marché financier, ça n'est pas d'acheter les actions des entreprises les plus saines, les actions des entreprises qui ont de l'avenir, etc. Le but sur un marché financier, c'est d'acheter les actions qui vont monter et puis de revendre au bon moment avant que ça s'effondre. Donc ça fait longtemps que les marchés financiers sont hors sol. Là, le fonctionnement des marchés financiers est alimenté artificiellement par les politiques des banques centrales qui ont fait ce qu'elles ont pu pour faire face à la crise et pour essayer d'assurer une certaine stabilité financière. Et le paradoxe, c'est que Les banques centrales, par leur politique de taux très bas, ont vraiment fait le maximum qu'on peut faire par une politique monétaire, et qu'en faisant cela, elles ont alimenté aussi ces bulles financières sur les marchés financiers qui sont extrêmement malsaines.
Mais on a le sentiment aujourd'hui que les banques centrales sont presque prisonnières d'un système qu'elles ont mis en place. Est-ce qu'elles peuvent en sortir, ou est-ce que de toute façon, nous sommes déjà allés trop loin ?
C'est très difficile pour une banque centrale. Monsieur Draghi l'avait déjà souligné depuis 2014. C'est très difficile pour une banque centrale de soutenir l'économie comme elles l'ont fait massivement si la politique budgétaire, c'est-à-dire les dépenses publiques, ne suivent pas. Or, on a eu depuis plusieurs années ce qu'on appelle un policy mix complètement incohérent au niveau de la zone euro. Un policy mix, c'est la combinaison de la politique budgétaire, c'est-à-dire la dépense publique, et de la politique monétaire, c'est-à-dire la politique de taux d'intérêt, la politique des banques centrales. On a eu un policy mix qui fonctionne pas. Si les banques centrales baissent les taux, si elles injectent des liquidités massivement, il faut que les États aussi dépensent. Et il y a des vrais besoins aujourd'hui dans l'économie française et dans les autres économies européennes. Il faut que les États dépensent au même niveau, parce que sinon, c'est un peu comme dans une voiture. Les banques centrales appuient sur l'accélérateur et les États appuient sur le frein. Donc forcément, si vous faites ça dans une voiture, c'est pas très conseillé, et c'est pourtant ce qu'on fait au niveau de la zone euro. Les États ont eu tendance, avant le Covid, avant le confinement, à faire des politiques budgétaires restrictives. Et d'un autre côté, les banques centrales, depuis 2008, font des politiques expansionnistes. Donc le frein et l'accélérateur, c'est pas forcément la meilleure recette. Et M. Biden, aux États-Unis, a très bien compris la chose. Et eux ont une politique budgétaire de relance massive orientée vers la transition écologique. C'est plutôt vers ce genre de solution qu'on devrait s'orienter si on veut s'en sortir.
Merci. Dany Lang, je rappelle que vous êtes maître de conférence en économie à l'Université Paris 13 et membre des économistes atterrés. Merci, bonne journée.
Merci à vous.
Europe Midi, Christophe Lamarre.
On essaie d'imaginer ce qu'il aurait dit ou fait en ces temps de Covid et en ces temps d'économie totalement bouleversée. Jean-Yves Lafesse nous a quittés et nous sommes très tristes. Les canulars téléphoniques, il les a inventés sur Europe 1 dans les studios de la rue François 1er. On aimerait bien qu'il nous fasse une blague aujourd'hui, mais il n'est plus là. Alors on a décidé de diffuser pendant tout le week-end quelques-uns de ses meilleurs moments sur notre antenne, histoire qu'il se rappelle à notre bon souvenir. Jean-Yves Lafesse.
Madame Ledoux.
Madame Ledoux n'est plus.
Je vous appelle parce que j'ai 92 ans aujourd'hui.
Journée hommage à Jean-Yves Lafesse.
Allô, bonjour madame.
Oui, bonjour madame.
Allô.
Oui, bonjour monsieur.
Oui.
Oui, bonjour, adjudant Monnier à l'appareil.
Oui.
C'est pour vous signaler que vous êtes en train de vous faire pirater là.
Pirater sur quel niveau ?
Eh ben, vous savez, il y a quelqu'un qui est en train de télécharger chez vous.
Ah bon ?
Vous n'avez pas d'informatique vous ?
Un petit peu, si, enfin, mais je vais vous dire, c'est plus ma fille qui s'en occupe que moi.
Ah, ben, votre fille, elle s'est fait piquer donc sa connexion à Internet par un hacker, et il en a profité pour installer un logiciel qui, en fait, lui permet de télécharger ce que vous avez en réel chez vous.
Ah bon ? Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là ?
En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils se mettent donc avec leurs ordinateurs,
hein. Oui.
Ce sont des hackers, et ils arrivent à télécharger ce que vous avez chez vous.
Oui.
Dans votre réfrigérateur, votre cave à vin, ils téléchargent quoi en fait, hein.
Oui.
Vous êtes devant votre réfrigérateur ?
Oui.
Vous pouvez l'ouvrir ?
Oui.
Il y a des yaourts, non ?
Oui.
Ouais. Combien il y en a ?
4, 8, 11 normalement.
Ouais, 11. Et il y en avait 13.
Eh ben ça, moi, je peux pas vous dire.
Ah ben, je vous le dis, non, parce qu'on est devant les relevés, hein.
Ah oui, d'accord. Non, mais j'ai...
Ouais, vous êtes fait avoir, hein.
Je comprends pas, quand même, comme ça. Parce que ils peuvent pas m'avoir enlevé des yaourts de mon frigo.
Ben, si, ils l'ont téléchargé.
Là, je comprends plus, moi.
Alors, je vous explique.
Oui.
Ils sont, eux, par exemple, vous avez un pirate, un hacker, qui est à Paris.
Oui, oui, mais écoutez... Ils n'ont pas pu m'enlever deux yaourts de mon frigo par l'informatique.
Ben si, ils les ont téléchargés.
Oui, mais comment téléchargés ? Un yaourt, c'est physique, en fait, c'est une matière. Ils l'ont pas aspiré.
Mais si.
Oui, non, mais comment qu'ils ont enlevé ces deux yaourts de mon frigo ?
Ils les ont téléchargés.
Oui, mais comment ?
Je vous passe au capitaine, hein ?
Oui.
Mon capitaine. merci, oui. Allô ?
Oui, bonjour.
Bonjour, capitaine Pelletier à l'appareil.
D'accord, merci.
Alors, qu'est-ce qui se passe ?
Mais je ne comprends pas ce que votre gendarme m'explique. Parce que...
Qu'est-ce qu'on vous a... Attendez, je prends la... Oui. Je prends la liste de ce qui vous a été téléchargé chez vous.
Ben, je sais pas, il me parle de yaourt, de...
Oui, il y a deux yaourts qui ont été téléchargés dans votre réfrigérateur.
Bon, eh bien, est-ce que...
Ah ben attendez, on a une bonne nouvelle.
Oui, dis-toi.
Voilà. Regardez les yaourts, vous les voyez les yaourts là ?
Oui, mais j'ai toujours 11 yaourts.
Eh bien attention monsieur, dans 10 secondes, on est en train de les re-télécharger, de les reformater, on vous les renvoie dans votre frigo, regardez bien.
Oui.
Comptez-les.
Eh bien j'ai toujours mon même compte moi.
Combien ?
11.
Ah non monsieur, vous ne savez pas compter.
Ah ben quand même.
Oh ben écoutez, quand même, je sais ce que je dis.
Non mais vous êtes en train de m'emmener en bateau là.
J'ai l'impression que c'est une blague pour la radio, oui.
Bande de salopards.
C'est un gros salaud.
Jean-Yves Lafesse, les canulars de Jean-Yves Lafesse que l'on retrouvera dans une heure. Simon Rubin, vous allez compter les yaourts et aussi les médailles sur l'étagère. Tout à l'heure, 13h-14h, le Club Tokyo 2021 avec nos consultants Jean-Claude Perrin, Jacques Monclar et Laura Flessel. Ah oui. Il y a un beau programme. Hein.
Il y a un beau programme, on les télécharge nous aussi les médailles. Là, une médaille de plus en judo, médaille d'argent pour Amandine Bouchard. Et puis sur les coups de 14h15, on aura aussi un escrimeur en finale. Bref, ça s'annonce comme une très belle après-midi de sport. Et puis dans l'émission, deux invités. Béatrice Barbus, elle est sociologue, dirigeante à la Fédération Française de Handball. On parlera notamment des filles qui vont jouer cet après-midi. Et puis Gladys Epang, elle qui fut médaillée de taekwondo aux Jeux Olympiques et qui va nous parler un peu des chances françaises dans cette discipline.
Merci Simon, à tout à l'heure.